Bienvenue pour ceux que je n'ai pas vus, bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, nous voulons nous réjouir ensemble. Et oui, ça m'a fait du bien, ces paroles de confiance dans l'Éternel. Alors qu'il nous enseigne ce matin, et je voudrais qu'on prie pour que c'est le Seigneur qui nous parle. J'avoue que moi-même, je suis surpris du texte que j'ai choisi, mais il me parle à moi. Et je me dis, le Seigneur a toujours un message pour son Église. Alors, on va prier. Si Rupert, tu veux bien prier pour que, voilà, nous ouvrions nos oreilles, essayons de comprendre ce que le Seigneur a à nous dire dans sa parole. Rupert.
Ah, Seigneur, notre Dieu, notre Père, Seigneur, voilà, Seigneur Dieu, le temps de la parole, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons que ce soit toi qui parle, Seigneur Dieu, par le Dieu, notre serviteur, Seigneur Dieu. Que Seigneur Dieu, tu puisses mettre dans sa bouche, Seigneur Dieu, dans son cœur, dans son esprit, Seigneur Dieu, les paroles, Seigneur Dieu, que tu veux adresser, Seigneur Dieu, à cette assemblée, Seigneur Dieu, à tes enfants, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, prépare-nous, Seigneur Dieu, afin que Seigneur Dieu puissions être cette bonne terre, Seigneur Dieu, prête à recevoir, Seigneur Dieu, cette semence que tu vas mettre en nous, Seigneur Dieu, que cette semence, Seigneur Dieu, puisse grandir et porter du fruit, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, que nous puissions être à ton écoute, Seigneur Dieu. Parle, Seigneur Dieu, parle-nous, Seigneur Dieu, par ton serviteur, Seigneur Dieu. Oui, oins-le, Seigneur Dieu, d'une onction spéciale, Seigneur Dieu, afin que Seigneur Dieu, ces paroles, Seigneur Dieu, puissent vraiment nous toucher, Seigneur Dieu, que nous puissions grandir, Seigneur Dieu, avec elle, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Et merci. Donc nous sommes après le temps de la Pâque, au moins nous célébrons la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus. Et je me suis dit, sûrement je vais parler de la résurrection. Mais j'ai intitulé cette prédication « Annoncer l'évangile aux morts ». J'avoue que moi-même j'étais un peu perturbé, mais je pense que le Seigneur veut nous parler. Et on m'a raconté l'histoire d'un professeur de théologie, on appelle ça plus précisément d'homilitique, c'est ceux qui enseignent aux prédicateurs. Donc vous savez, j'ai suivi cette formation, il y a Jean-Louis aussi, la prédication, si pour autant ça s'enseigne, la prédication. Et ce professeur, pour mettre en pratique, demande un jour à ses élèves d'aller dans un cimetière et leur a dit « maintenant prêchez ». Vous imaginez la tête des étudiants qui sont là, mais ils ont compris que le professeur était tout à fait sérieux. Et donc, ils se mirent à prêcher devant les tombes. Alors, j'avoue que je pense qu'ils se sont souvenus toute leur vie de ce que leur avait demandé ce professeur. Et ça m'a intrigué et je proposais de lire deux passages. Parce que pendant le temps où Jésus est ressuscité, en fait, il est ressuscité pendant environ 40 jours, il va préparer ses disciples à la mission. Et je vous propose de lire deux passages ce matin par rapport à ce sujet, à cette question. Et si Dieu nous demandait de prêcher l'évangile aux morts, est-ce qu'on le ferait si c'était là ce que Dieu nous demandait? J'aimerais qu'on, tout simplement, on médite sur à qui s'adresse l'évangile de Christ réellement à partir de ces deux textes. Le premier, Ézéchiel 37, les versets 1 à 6. Et le deuxième, Éphésiens 2, versets 1 à 10. Voilà, si vous voulez regarder dans vos Bibles. Et j'ai choisi la version du Semeur qui va s'afficher, je pense. Donc, on va commencer par Ézéchiel. La main de l'Éternel se posa sur moi. Et l'Éternel m'emmena par son esprit, me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux, tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Je répondis, « Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. » Puis il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai en vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrerai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Voici le premier passage écrit plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus, adressé à Ézéchiel. Et je vous propose en deuxième lecture Éphésiens 2, versets 1 à 10. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions dans nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu, riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et il nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de la grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Jusque-là, notre passage de ce matin pour réfléchir au message. Alors, en lisant ces textes, est-ce que vous pensez qu'on peut annoncer l'évangile de Christ à des gens qui sont morts ? Eh bien, ce que montre Dieu à Ézéchiel, c'est de prophétiser au niveau, en annonçant la vie nouvelle à ceux qui sont morts, les ossements desséchés, afin qu'ils revivent, et ils revivent complètement, corps, âme et surtout en esprit. Et quand ils revivent, vous noterez qu'à la fin, ils reconnaissent que Dieu est l'Éternel. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Voici ce qui était annoncé depuis fort longtemps avant. Donc je vous propose de réfléchir en quatre parties. D'abord que l'homme sans Dieu est mort, est véritablement mort. Et que c'est par amour que Jésus-Christ nous donne le salut et donc la vraie vie. Et qu'il nous donne plus que la vie éternelle par son esprit. Et enfin que Dieu donne une mission importante à nous, chrétiens et Église. D'abord, l'homme est mort sans Dieu, c'est bien ce que nous déclare l'apôtre Paul au verset 1 et 3. Paul décrit l'humanité sans Dieu, l'être humain laissé à lui-même, et c'est sûr que c'est très fort. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Avant notre rencontre avec Jésus-Christ, il n'y a aucune vie spirituelle en nous. Il n'y a aucune communion avec Dieu, car la vraie mort comme on le comprend dans l'histoire du Jardin d'Éden, c'est la séparation d'avec Dieu. Nous ne sommes plus en communion, donc nous sommes morts à la véritable vie. Et qu'est-ce qui a causé cette mort? C'est simple, mais c'est bien de nous le rappeler. C'est nos fautes, nos péchés, ce qu'on a fait, que Dieu nous avait dit de ne pas faire, et puis tout ce qu'on ne fait pas, que peut-être Dieu voudrait qu'on fasse. Voyez la gravité du problème de l'homme. Nous étions morts au plan spirituel. Et puis, ça va plus loin. Non seulement nous étions morts, et Paul d'insister, nous étions esclaves en plus. Et il dit, nous étions esclaves du monde. Verset 2, par ses actes, vous vous confirmiez alors votre manière de vivre à celle du monde. C'est sûr que notre vie est totalement influencée par la culture ambiante, la culture du monde. Et vous, vous savez ce qui domine ce monde. Oui, nous sommes esclaves de celui qui veut dire aux gens « Non, non, vous ne pourrez jamais être réconciliés avec Dieu. Vous êtes trop loin. » C'est ce que nous suivons l'ennemi, le diable, il veut dire aux gens. Il dit « Mais, et c'était notre situation à nous. Nous aussi, nous suivions des puissances spirituelles mauvaises. » Sans s'en rendre compte peut-être, mais c'est celle du monde. Cet esprit qui agit maintenant, dans les zones rebelles à Dieu. Et puis finalement, nous sommes esclaves de nous-mêmes. Souvent, on n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin que l'ennemi nous tente, puisqu'il est dit au verset suivant, « Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes, liés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. » Dans notre traduction, il est traduit ici, nous vivions selon la chair. Alors la chair, c'est quoi? Dans la Bible, c'est l'homme livré à lui-même. Ce n'est pas juste le péché sexuel. Beaucoup de gens pensent que c'est ça et que c'est le péché impardonnable, c'est le péché sexuel. Non, la chair, elle englobe tous nos mauvais désirs égoïstes. La soif de posséder, le désir de se faire un nom, l'être reconnu, l'amertume, la jalousie, l'esprit de vengeance et ainsi de suite. C'est très vaste. Alors, pour tout cela, oui, nous étions non seulement morts, mais au verset 3, nous étions condamnés, voués par nature à la colère de Dieu comme les autres hommes. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et lorsque le Dieu parfaitement saint voit notre désobéissance, sa colère se manifeste. Non pas une colère incontrôlée comme nous, arbitraire, comme souvent nos colères humaines, mais une sainte colère, une colère contrôlée, justifiée. Oui, nous étions non seulement morts, mais nous étions voués à la mort éternelle comme punition. Et c'est bien cela, et même si vous le savez tous, que le Seigneur nous demande de nous rappeler les uns les autres, que Dieu nous a donné ce salut gratuitement par Jésus-Christ. C'est bien ce message fou de l'Évangile qui est redécrit au verset 4 et 5, dont nous ne devons pas nous lasser. Frères et sœurs, ne négligeons pas la puissance de l'Évangile. Le message de Christ est une puissance de Dieu. Elle nous a été confiée. C'est pour ça qu'il dit à Pierre, « Ce que vous lirez sur la terre sera lié, ce que vous déliez sur la terre sera délié. » Mais quelle puissance! Non pas la nôtre, mais celle de Christ. La puissance de délivrer de la mort. C'est que, message, je sais qu'il était pour moi, c'est pour nous réveiller de ne pas oublier dans un monde qui va être de plus en plus dur, de plus en plus dans le mal, ce que nous avons, la puissance de l'Évangile de Christ, dont nous avons une responsabilité parce que ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est bien ce que dit ces versets, c'est Dieu, versets 4 et 5, Dieu riche en bonté, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns avec les autres, nous tous qui sommes le corps de Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le salut de Dieu, ça reste quelque chose d'étonnant et d'inattendu, pour les gens autour de nous, pour les jeunes générations, pour les gens en bagne. Nous devons avoir conscience de ça. Ça reste une folie pour les hommes. C'est ce que dira Paul dans un autre épître. C'est une folie. Dire que Jésus, par amour, nous a pardonné pour toutes nos fautes alors que nous allions à la mort certaine et que nous devions subir sa colère. Mais Dieu nous en donne la vraie raison. La raison qu'Hélène nous a rappelée et tous les chants de la première partie, c'est pas à cause de nous, c'est pas à cause de notre acceptation de Jésus-Christ, mais c'est parce que Dieu est riche en bonté, c'est à cause de son grand amour dont il nous a aimés. C'est la seule raison. Alors, ma question, est-ce que vous pensez que l'on peut annoncer l'évangile à des personnes qui sont mortes? Eh bien, ce qui est très clair, c'est ce que Jésus a fait. Et il l'a fait pour nous, alors que vous étiez morts. Souvenez-vous, souvenons-nous, si vous avez accepté Christ, de notre ancienne situation. Nous étions, nous aussi, morts. Et Christ, c'est ce qu'il a fait. Jésus s'est incarné. Il est venu pour annoncer le salut à des hommes et des femmes qui étaient spirituellement morts à cause de leur faute. Voici son amour. Il a aimé des cadavres du point de vue spirituel. Et puis, l'élément central du passage est bien là. Oui, la vraie résurrection, c'est le verset 5. Notre résurrection, il nous a fait revivre avec Christ. Nous étions morts, mais il nous a fait revivre avec Christ. Voici donc la vision d'Ézéchiel, du prophète, réalisée par Jésus. Ossement desséché, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai en vous des nerfs et je vous revêtirai de chair. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. C'est tout cela que Jésus essaie désespérément d'expliquer aux disciples, aux Juifs qui sont là. Regardez Nicodème, ce maître religieux juif qui vient de nuit le voir. Il essaie de lui expliquer, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Oui, Nicodème était mort, lui, chef des Juifs. Et nous, sommes-nous morts ou sommes-nous vivants? C'est bien le miracle de Jésus. Il fait passer de la mort à la vie. Et c'est ça que l'Évangile nous dit. Il n'y a pas deux façons. L'Évangile est radical, mais il est radical par amour pour les hommes. Il nous le rappelle dans 1 Jean 5, 11 à 12. L'épée de l'esprit, c'est une puissance entre nos mains. Jean 1, Jean 5, 11, 12, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Waouh ! J'aimerais ne pas avoir à prêcher cette radicalité de l'Évangile, mais c'est cela l'enjeu. Si tu as le Fils, tu es passé de la mort à la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu restes aéré sous les puissances du monde, sur tes propres péchés. Mais Christ est mort pour cela. Alors, c'est cela que nous avons. Nous sommes porteurs de ce message. Et Paul de nous rappeler que ce n'est pas par nos efforts, par ces versets si connus, je pense pour beaucoup qui sont là, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ce n'est pas le fruit des œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Nous ne pouvons pas nous vanter que nous sommes sauvés. Mais nous sommes passés de la mort à la vie. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, nous donne même plus que la vie éternelle. Verset 5, il nous fait revivre les uns avec les autres, avec Christ. Il nous donne des frères et sœurs en Christ, une communauté de croyants. Et puis, au verset 6, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres. Il nous a fait siéger les uns et les autres. Toute son Église dans le monde céleste. Il nous a fait siéger les uns avec les autres dans le monde céleste. Waouh ! Selon Éphésiens 2:6, nous siégeons, puisque c'est écrit avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. N'est-ce pas bien plus que la vie éternelle ? Alors bien sûr, peut-être vous ne ressentez pas, vous ne le voyez pas. Et comme dit Hélène, c'est dans la confiance, dans la promesse de Dieu que nous le voyons. Ce que Paul veut nous dire, c'est que nous partageons cette destinée glorieuse. J'aime toujours à dire cette citation, il deviendra célèbre, « Il n'y a rien de plus beau qui pouvait nous arriver. Nous serons en l'éternité à siéger avec Christ. » Waouh ! Nous sommes unis à Christ, et si nous restons unis, nous sommes connectés, inséparables, nous sommes au bénéfice de sa vie, de sa résurrection, de sa victoire, et il vaincra sur le mal. Oui, toutes ces puissances mauvaises. Jésus a promis, il vaincra sur le mal, sur Satan. Frères et sœurs, tenons ferme dans l'adversité qui nous attend dans les années à venir. Et Dieu nous a préparés à une mission. Notre mission, au verset 10, puisqu'il nous a sauvés, elle est donnée là, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Alors, jusqu'à maintenant, Paul nous a parlé de notre salut comme d'une résurrection spirituelle. On est passé de la mort à la vie. Mais ici, on voit que cette vie, par notre union avec Jésus-Christ, elle est nouvelle pour accomplir des œuvres. Et que c'est Dieu qui a préparé ces œuvres d'avance. Waouh ! Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez accepté Jésus-Christ, si vous êtes venu de la mort à la vie, Dieu a préparé des œuvres pour vous que vous allez accomplir dans la toute confiance qu'il a sur cette terre. Alors, c'est quoi ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous ? C'est vrai que c'est un sujet en lui seul, théologique, très important, qui demanderait des heures de réflexion. Et si on se pose la question, oui, il y a d'abord des œuvres qui nous viennent à l'esprit. Je pourrais poser la question, à quoi vous pensez si je vous dis que vous devez accomplir et que des œuvres bonnes ? Peut-être la première chose, c'est déjà bien se comporter, comprendre les commandements de Dieu, essayer de les respecter. Aussi faire de bonnes actions. C'est vrai que c'est le mot, il s'est traduit comme ça. C'est vrai que faire de bonnes actions, typiquement aider son prochain, Jésus dit lui-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il nous parle de tout ce qu'on a fait de bien aux autres. Et on peut penser aussi, bien sûr, à tous les fruits de l'esprit qui sont dans Galates, qui sont donnés, et tous les fruits de l'esprit, et aussi tous les ministères donnés à l'Église. Eh bien, frère, tout cela fait bien partie des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Mais il y en a une encore plus grande. Il y a une œuvre plus grande pour laquelle Jésus nous a préparés. Et c'est mon interprétation de Jean 14, 12. C'est un verset qui m'a toujours intrigué, et vous pouvez être peut-être en désaccord, mais réfléchissez ce que vous mettez derrière ce verset. Jean 14, 12. Ce que déclare Jésus-Christ à ses disciples. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais Et il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Est-ce que c'est des paroles qui, pour vous, à un moment, vous ont frappé dans la Bible? Que Jésus te dise, tu feras des œuvres encore plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. Et je ne vous cache pas que je me suis toujours dit en lisant ces versets, mais comment c'est possible? Jésus a guéri, je pense, tous les malades qui s'approchaient de lui. Il rend la vue aux aveugles. Il ressuscite des morts. Est-ce que vous voyez ça dans votre vie? Et je l'aimerais, mais il a multiplié les pains à des milliers de personnes alors qu'il y avait un pain. Il s'est donné un sacrifice. Comment moi, je peux faire une œuvre plus grande? C'est absolument invraisemblable. Mais laissez-moi vous partager mon interprétation personnelle, qui est notre message pour notre église d'Aubagne. C'est l'œuvre plus grande que nous pouvons accomplir maintenant que Jésus est auprès du Père. Si bien, c'est parce qu'il est parti. Cette œuvre plus grande, c'est d'annoncer l'évangile à ceux qui sont morts. D'où le titre de ma prédication, « Annoncer l'évangile aux morts ». N'est-ce pas la prophétie? N'est-ce pas le rôle qui nous a été donné? Quand Jésus était sur terre, il a vraisemblablement annoncé l'évangile à quelques centaines et milliers de disciples qui ont écouté, si on somme tout ça. On pourrait sans doute compter, pendant ces 3 ans de ministère, quelques milliers. Je ne sais pas si les gens ont essayé de faire des chiffres. Vous savez, souvent, ils sont les 70 disciples, on voit qu'il y a des foules. Mais combien vous pensez-vous? Allez, dites-moi même 10 000. Réfléchissez à là où il allait. Eh bien, il y a une chose qui est plus grande dans le ministère si important confié à l'Église de Jésus-Christ. C'est cela qu'on a appelé la grande mission. C'est cela où, pendant ces 40 jours où il est ressuscité, il prépare ses disciples et il dit « Je vous enverrai une puissance d'en haut ». C'est cela qu'il annonce à Pierre, qui, revêtu du Saint-Esprit, va faire que 3000 personnes se convertissent au simple discours qu'il fait à la Pentecôte. Aujourd'hui, des centaines de millions, je ne vais pas trop dire un chiffre, mais je dirais en milliards, je pense, sont passés de la mort à la vie par le témoignage des disciples de Jésus-Christ. Voilà la mission. Voilà la vision décrite à Ézéchiel qui se réalise. Proclamer l'évangile à ceux qui sont morts, et nous l'étions nous aussi, pour qu'ils reviennent à la vie. Nous n'aurions à avoir d'autre cesse que celle-ci, parce que nous étions aussi morts. Et nous avons la puissance de l'Évangile. C'est cela, selon moi, l'œuvre plus grande qui nous est confiée par le Seigneur, qu'il donne dans ses derniers mots, dans les 4 Évangiles. Je vais citer Matthieu 28, 19, 20. Ça, c'est la mission de son épouse, l'Église. C'est notre mission. Allez donc dans le monde entier. « Faites 10 disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors pensez-vous maintenant qu'on peut prêcher l'Évangile aux morts? Oui, parce que finalement, c'est ce qui nous est arrivé. Nous étions morts, et parce que la parole de Dieu nous a été annoncée par un disciple de Christ, nous avons cru. Et parce que nous avons cru, nous sommes maintenant ressuscités avec Dieu, et plus nous siégeons avec Christ dans les cieux célestes. Et de même, tous ceux qui entendront et recevront l'Évangile par notre témoignage, par notre lumière, par nos actions, par notre prédication. Tout cela reçoit la même puissance qui vient non pas de nous, mais de la puissance de la parole de Dieu, qui dans sa grâce et sa puissance les fera passer de la mort à la vie. En résumé, ce passage d'Éphésiens 2:10 nous rappelle que nous aussi, nous étions morts. Et nous étions dans la même situation. Alors ne regardons pas, regardons ce autour de nous avec amour, parce que Dieu les a aimés. Et Dieu nous a aimés. Et nous n'étions pas aimables. Il nous a donné gratuitement la vie par l'Esprit, par le sacrifice de son Jésus-Christ. Et son œuvre plus grandiose, il nous l'a confiée à nous, avec cette mission, faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous pensez que c'est trop difficile, que nous ne sommes pas assez forts, nous avons juste à nous appuyer sur cette promesse du verset 20, qui va avec, et voici, je suis moi-même avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Amen. Je propose qu'on prie avant de prendre, de nous rappeler la mort et la résurrection par la scène. Notre Père, notre Dieu, c'est vrai que nous étions morts, sans vie. Nous étions destinés à la mort. Il n'y a pas de doute, Seigneur, la punition méritée. Par grâce et par ton amour, tu nous as sauvés. Par grâce et à ton amour, tu as fait de nous des enfants adoptifs. Tu nous as mis ensemble, assis avec toi dans les lieux célestes. Et un jour, nous chanterons et nous régnerons avec toi, ô Seigneur. Merci pour les millions et centaines de millions de personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Seigneur, si quelqu'un n'avait pas donné ta vie aujourd'hui, toi, tu es toujours là. Tu es prêt à prendre, Seigneur, et tu es prêt toujours à pardonner, à dire « je te pardonne, je te prends avec moi ». Seigneur Jésus, merci aussi de nous guider, même dans les petites choses, d'accomplir ta mission. Celle pour laquelle tu nous as mandatés en tant qu'Église, non pas une Église qui soit morte, mais une Église vivante. Et l'Église vivante, elle annonce ton salut à nos familles, à nos voisins, à ceux qui sont autour de nous, au monde entier. Que, Seigneur, nous ayons vraiment un cœur pour ceux qui sont morts, pour leur dire « je connais une source d'eau vive ». Et que nous soyons ainsi une bénédiction et une source de ton salut pour beaucoup d'hommes et de femmes dans ce monde. Amen. Je vous propose de partager le pain et le vin. Et comme on est peu nombreux, je vous propose peut-être qu'on se mette en cercle et de la faire circuler parce qu'on est un petit nombre. Je vais vous rappeler cela, bien sûr. Vous pouvez quand même vous mettre en cercle si la scène, elle est pour ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ, mais vous pouvez vous mettre dans le cercle, laisser passer à ce moment-là le pain ou le vin si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, si vous n'êtes pas passé par les eaux du baptême. Mais le Seigneur invite chacun à prendre la coupe. Alors, si vous mettez en cercle, et puis je lirai le passage introductif à la scène. Peut-être je vais donner le pain. Si quelqu'un prend le pain quand même. Voilà. Tu vas me sortir. Voilà. Peut-être je te ferai circuler si tu tiens le pain. Et puis après on prend ça. En Corinthiens 11, 23, 27 et 29. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain, Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi celui qui mange pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Je vous propose juste de prendre quelques minutes pour que nous examinions nous-mêmes et que dans notre cœur nous confessions nos péchés pour être sentir purs, parce que le Seigneur nous aime et il est prêt à pardonner toutes nos fautes, tout ce que nous avons fait de mal cette semaine, avant de prendre le pain et le vin. Seigneur, pardonne nos offenses, Seigneur, pardonne nos péchés. Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, la vie éternelle, Seigneur Jésus, le pain et le vin. Voilà. Voilà, on peut partager le pain. Voilà, on peut le faire tourner. Et puis on va faire tourner.
Seigneur, viens purifier mon cœur, Seigneur. Viens purifier ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Toutes les fois où je n'ai pas bien fait, Seigneur, et toutes les fois où même j'en suis pas consciente, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je dois être digne, Seigneur, de ton amour. Je veux comprendre toute la mesure de ton amour. Sa profondeur, sa hauteur, sa largeur, ce que ça représente, Seigneur. Même si je suis limitée pour le comprendre, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à mieux le comprendre, à mieux le vivre. Amen.
Amen. On peut prendre le pain, voilà, le vin. Est-ce qu'on peut le passer comme ça, hein? Ça va, ça va.
Oui, tu veux que je le passe?
Je sais pas si on fait pas ça, peut-être. Ah, le pain. J'ai eu, oui. Ta présence. Présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute ma foi, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Et je vous propose, alors que nous regagnons nos places, de chanter un chant. Un chant qui dit « À la croix, à la croix ». Ce miracle que nous annonçons, c'est à la croix qu'il s'est accompli. me cherches. Tu me connais et je Bye.